jusqu'à 11h, vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Les affaires du sport. Les affaires du sport avec Ray Lalonde.
Bon dimanche, Ray.
Salut Paul, bonjour Thérèse.
Ben, ça tombe bien qu'on parle du Masters parce qu'on a parlé à Carlo Blanchard, analyste à RDS, qui s'apprête à analyser la dernière ronde du Masters qui promet, surtout en vertu du trou d'un coup de ce golfeur canadien survenu hier, jeune golfeur, 29 ans, Connors, c'est ça?
Oui, Connors. Oui,
Corey Connors, exactement. Et c'était son deuxième trou d'un coup. D'ailleurs, il en avait fait un en 2020 sur le circuit. Le Masters, le tournoi des maîtres, est-ce que tu dirais, Ray, que c'est le plus gros de tous les tournois du Grand Chelem, par exemple?
Oui, absolument, Paul. Puis je te dirais pourquoi, deux raisons. C'est le plus jeune, ironiquement, versus l'Omnium britannique qu'on connaît, le Open Championship, qui a 160 ans. Le Masters, ça date de 1934, mais... Le prestige du Masters, c'est lié au fait que le tournoi a lieu au même terrain à chaque année. Fait qu'à quelque part, c'est comme un rendez-vous annuel. C'est un rituel du printemps. Ça signale l'arrivée du beau temps, t'en parlais tout à l'heure. Et c'est aussi le tournoi avec le plus grand nombre de traditions. Tu sais, les cadets en blanc, la nourriture qui se vend au prix des années 80 à 1,50$ pour un sandwich, puis... 3,50$ pour une bière. Puis... Alors, on est vraiment là dans un mode minimaliste avec le Masters, Paul. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas qu'ils aiment pas l'argent, c'est que eux mettent l'image, le prestige, la réputation du tournoi en avant du gain économique. Alors, je te donne l'exemple puis qui me surprend à chaque année, c'est la relation qu'ils ont avec CBS pour la diffusion. C'est une relation qui date de 66 ans. Puis à chaque année, ils signent un contrat d'un an, Paul. Parce qu'ils ont tellement confiance l'un en l'autre. C'est une relation unique dans les annales du sport dans le monde entier. C'est-à-dire que CBS ne paie presque rien aux Masters pour avoir les droits. Ah. En retour, le Masters leur donne seulement 4 minutes publicitaires par heure. Parce qu'ils mettent tout l'emphase sur la retransmission du tournoi, du golf. Puis les commanditaires du Masters... que ce soit Rolex, que ce soit UPS, ils sont IBM, par exemple, ils sont presque pas visibles ni sur place, ni à la télé. C'est comme une relation où on se fait tous confiance, on est tous là pour avoir du succès, bien sûr, mais on va se fier au rayonnement mondial du Masters, puis on va minimiser le côté commercial, qui devient un irritant parfois pour certains qui consomment. Alors, ça, c'est la beauté du Masters. Paul, 4 minutes de pub en 60, c'est comme jamais vu. Là, ça n'existe pas nulle part dans aucun événement sportif.
En plus, CBS compte dans ses rangs le commentateur probablement idéal pour le golf, Jim Nantz.
Oui. Ben, Jim Nantz avec Nick Faldo en combinaison.
Ouais.
Écoute, c'est le duo par excellence. Jim Nantz, il était le diffuseur animateur pour le Super Bowl à CBS, suivi du March Madness à CBS, suivi du Masters à CBS. Alors, Dieu sait que Jim Nantz, c'est peut-être la voix la plus reconnue, puis c'est le genre de voix paisible, douce, qui parle de tradition, qui est idéale pour la diffusion du Masters. Alors,
et d'autant plus, Ray, que je crois qu'il vient de voir son contrat prolongé par son employeur CBS.
Ben Paul, je vais te donner un chiffre qui est ahurissant, là. Tu sais, il fait les matchs de la NFL avec Tony Romo, l'ancien quart arrière des Cowboys de Dallas. L'an dernier, Romo signe un contrat pour renouveler. Il est effectivement perçu comme peut-être le meilleur analyste au football. 17,5 millions. Fait que là, Jim Nantz, son contrat se terminait cette année. Il est retourné à la banque, si on veut, avec les gens de CBS pour renouveler son contrat pour les 10 prochaines années. Tu vois, ces gens-là sont des stars qui attirent le public, qui confortent le public, qui rend l'événement encore plus... Une expérience de consommation vraiment de haute qualité, puis c'est ça qui fait la différence.
Alors, on a la table mise, on en parlait avec Martin Lemay en début d'émission, parce que Corey Connors, non seulement il a fait un trou d'un coup hier, mais il n'est qu'à 5 coups du meneur. Alors donc, il est dans la lutte, en tout cas, pour bien finir au classement de cette dernière ronde.
Oui, mais Paul, honnêtement, j'ai regardé jouer Matsuyama hier, là. Je pense pas que quelqu'un va le coller aujourd'hui.
Carlo disait ça tout à l'heure.
Ouais, honnêtement, lui, il est parti en peur après l'arrêt là, pour la météo. Là. Il a fait 6 birdies sur 7 à peu près. Là. Il a 4 coups d'avance. 4 coups d'avance aujourd'hui, à moins qu'il se plante royalement, là, le tournoi est déjà hors de portée pour la plupart des golfeurs. Puis c'est un peu dommage parce qu'on aime le drame. Puis les 3 premiers jours, Justin Rose était très serré. Il y a 4 gars à moins 7. Mais quatre coups, c'est une montagne là, avant de cumuler ce déficit-là.
Une liste des propriétaires de franchises de sport a été publiée cette semaine.
Oui, Paul, j'aime ça en parler parce que ça pique ma curiosité de revenir pas juste sur la valeur des clubs, mais la valeur des propriétaires. Je vais te donner quelques exemples des clubs qui ont pris une grosse valeur que toi, tu vas reconnaître certainement. Là. En 1973, George Steinbrenner avait acheté les Yankees pour 10 millions.
Hey,
aujourd'hui,
10
le
millions.
Club vaut 6,7 milliards.
10 millions?
Ouais. T'as 10 millions, Paul, en 73.
Pour les Yankees?
Oui. Et Robert Kraft, le propriétaire des Patriots, en 94, c'est encore plus récent pour nous, il avait acheté les Patriots pour 172 millions. Aujourd'hui, le club en vaut 4,4 milliards.
Et là, alors, les gens vont dire, oui, mais la valeur d'un 10 millions en 73, ben, je vais te faire un calcul à peu près, c'est à peu près 7 fois
oui.
la valeur. Donc, c'est comme si Steinbrenner n'avait payé que les Yankees que 70 millions.
Absolument, dans la conversion d'aujourd'hui. Mais je veux parler de quelques propriétaires qui vont... attirer l'attention des gens. Dans la totalité des 20 propriétaires les plus riches au monde, leur valeur et fortune personnelle, c'est 426 milliards. Puis Paul, ce qui est surprenant, c'est que ça a monté de 60 % l'an dernier, en pleine pandémie. Mais c'est parce que c'est pas tous des propriétaires qui ont uniquement une équipe de sport. Ils sont aussi dans la technologie, dans l'immobilier, dans les finances. Alors tu vois que ces gens-là ont beaucoup d'argent à tous les niveaux. Le propriétaire le plus riche sur la planète, c'est Mukesh Ambani, qui est propriétaire d'une équipe de cricket en Inde, les Mumbai Indians, dans la Indian Premier League. 84,5 milliards de dollars en valeur personnelle.
C'est... Ouais,
d'argent. Ouais. Là, on est dans la catégorie de Bill Gates et pas loin de Jeff Bezos, peut-être 100 milliards de moins, tu sais.
Le cricket au Pakistan et en Inde, écoutez, c'est comme le hockey sur gazon là aux Olympiques, c'est toujours le Pakistan contre l'Inde. Non, mais le cricket, Ray... C'est un sport majeur. D'ailleurs, je crois que le premier ministre du Pakistan en ce moment est une ancienne star de cricket.
Tout à fait. Le cricket, on y pense pas beaucoup parce que c'est loin de nous en Amérique du Nord, mais c'est populaire en Angleterre, c'est populaire dans ces pays-là d'Asie, mais en Inde, avec une population d'à peu près 1,4 milliard d'individus, c'est le sport national, bien
les
sûr.
Les autres, ils ont le public, là. Ils ont la quantité.
Non, ils ont du volume, Thérèse.
C'est ça, c'est le volume, ouais, voilà.
Exact. Mais bon. Le deuxième, c'est Steve Ballmer, Paul, propriétaire des Clippers de Los Angeles de la NBA, l'ancien partenaire de Bill Gates avec Microsoft. Il est rendu à 68,7 milliards de valeur. L'an dernier, c'était 52,7. Alors, dans une année, sa valeur a augmenté d'à peu près 30 %.
Imagine.
C'est impressionnant, là, dans une année de pandémie où il n'y avait même pas de spectateurs dans les gradins, puis les équipes ont tous perdu de l'argent. Malgré tout, ça a été une bonne année pour les plus riches sur la planète en 2020.
Ray, malheureusement, c'est parce qu'on a Stéphane Boucher de la Salle des Nouvelles qui va s'amener
pas de
avec
problème, Paul.
Je te souhaite une excellente nouvelle, Ray, puis manque pas la fin du Masters.
Absolument. Bonne semaine à vous autres. Merci.